Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, j'espère que tout est au beau fixe pour vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui vous concerne tous, le CODEV. Alors le CODEV, c'est le Conseil de développement, c'est une assemblée de démocratie participative qui rassemble de nombreux acteurs de la métropole de Montpellier. Et Jean Maillet est venu entre deux réunions pour nous en parler. Bonjour Jean.
Bonjour.
Vous êtes conseiller au cabinet du président de 3M, Montpellier Méditerranée Métropole. C'est les 3M, pour accompagner toutes les transformations qui nous attendent. Alors, je vais d'abord vous laisser un peu vous présenter plus rapidement.
Oui, très modestement, je suis conseiller pour m'occuper, entre autres, de ce conseil de développement qui est une sorte de laboratoire d'idées citoyens au service des élus, mais surtout pour réfléchir, qui réfléchit à l'avenir de tout le territoire.
Et comment vous avez été amené à cela ?
C'est toute une vie, comme un chat. Je dois avoir à peu près 7 parcours qui m'ont amené à être tantôt du côté de la vie associative, tantôt du côté de l'État, tantôt du côté des collectivités. Et aujourd'hui, je me retrouve à animer avec une collègue ce conseil de développement de Montpellier Métropole.
Et avec un amour du débat, une capacité d'écoute ?
Je pense que c'est mieux de l'avoir, cette capacité d'écoute, puisqu'il s'agit de rassembler des citoyens venant de plein d'endroits, vous l'avez dit, pour réfléchir à ce territoire dans les années à venir avec toutes ses composantes. Donc il faut essayer à la fois d'animer un débat, mais surtout de l'encadrer, de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer.
Alors avant de parler plus longuement donc, des enjeux du CODEV, dont on va parler, je sais que vous avez rejoint l'UNADEL. Alors l'UNADEL, c'est une association qui accompagne des territoires et les habitants. Et finalement, c'est une association qui réfléchit un peu au niveau national. Alors, c'est pour vous, c'était quelque chose de nécessaire ? C'est un complément ? C'est quoi ?
L'UNADEL, c'est une de mes vies professionnelles. J'en suis aujourd'hui le trésorier bénévole, mais l'UNADEL, c'est l'Union nationale des acteurs du développement local. C'est une association qui a déjà une certaine expérience. Elle est née en 92 de la fusion de deux associations qui avaient elles-mêmes une vie auparavant. Et c'est un regroupement à la fois de personnes, de personnalités, de collectivités qui réfléchissent au développement territorial. Puisque depuis les années 50-60, on sait que quand on coopère entre acteurs de différents secteurs, on est plus intelligent au bénéfice du territoire. Voilà. Donc alors, il s'agit bien de développement territorial et ça a été mon dernier poste salarié délégué national de cette association.
Ce qui a été décidé sur la régionalisation, souvent région, territoire, est-ce qu'on peut faire une petite différence ?
Je crois qu'on fait une grande différence. Souvenez-vous, pour les plus anciens des auditeurs, avant 81, il y avait pas beaucoup de radios, il y avait quelques radios périphériques, il y avait peu de télévision et surtout il y avait un État omniprésent avec un préfet qui était ordonnateur de tout ce qui se passait sur le territoire. Et puis au fil de la décennie 80, de la décennie 90 et plus récemment encore, différentes lois de décentralisation sont venues répartir les compétences entre les différents niveaux de territoire. Dans les années 90, ça a été la montée en puissance au-delà des communes, des regroupements de communes, des communautés d'agglomération. Et du coup, à la fin des années 90, après que Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur polémique, mais grand ministre de l'Aménagement du Territoire, et son homologue Dominique Voynet, ensuite dans le gouvernement Jospin, ont mis en place un certain nombre de réglementations qui structuraient les territoires et aussi qui structurait le débat dans les territoires avec notamment dans la loi de 99 les conseils de développement qui sont venus remplacer ce qui existait un peu auparavant, les pays, les comités de bassin d'emploi qui étaient des instances qui étaient nées dans les années précédentes.
Alors le CODEV donc, ce fameux conseil de développement de territoire, comment il fonctionne? C'est compliqué.
C'est compliqué, oui et non. Disons que c'est une assemblée d'habitants, de personnes, réparties en plusieurs collèges. D'abord des habitants qui sont majoritaires, des habitants de la ville, issus des conseils de quartier de Montpellier, puis et de la métropole.
Alors, ça, c'est quelque chose pour vous, puisque vous en êtes responsable, qui n'est pas très nouveau, puisque vous venez de parler de 1999, mais qui est encore très nouveau pour le citoyen.
Ils sont devenus obligatoires dans les grandes villes, et donc à Montpellier, depuis 2008. Donc, c'est quand même pas tout à fait récent. Hein, donc, à Montpellier, nous avons 7 comités de quartier qui travaillent, j'espère, en bonne intelligence les uns avec les autres et en bonne intelligence avec les habitants. Mais oui, c'est relativement récent, cette forme de participation.
En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas encore ancré dans les esprits complètement, dans tous les gens qui ont été habitués depuis des années au fonctionnement législatif. Ce fonctionnement participatif n'est pas forcément encore bien ancré.
C'est toujours plus subtil qu'il n'y paraît. On est à Montpellier avec l'histoire de Montpellier, ses élus grands et moins grands. Les comités de quartier, qui sont des associations à des échelles plutôt microscopiques, enfin, disons, autour d'un îlot ou d'une rue ou d'un sous-quartier de la ville, existent depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, ont l'habitude, un, de travailler ensemble et deux, de dialoguer avec les élus.
Oui, mais ce sont des initiés.
Oui, ce sont des initiés. Ce sont des gens qui ont un intérêt, que j'espère le plus général possible, et non pas un intérêt particulier, au bien-vivre dans la cité, quand même.
D'accord. Alors, donc, l'objectif du CODEV, finalement, il est double. C'est à la fois de faire émerger la vie de la société civile, de ces comités de quartier dont vous venez de nous parler, etc., mais en même temps, de l'informer des modifications qui sont en cours. Alors, c'est quoi ces modifications en cours? C'est des stratégies? C'est quoi?
Alors, juste avant de vous répondre, je vais finir de répondre à la question précédente en vous disant donc qu'il y a des habitants dans ce conseil de développement,
oui, pardon,
de la ville et de la métropole. Il y a aussi des acteurs économiques plutôt innovants, le secteur de l'économie sociale et solidaire, des entreprises un petit peu particulières, enfin innovantes au sens produisant des actions un peu nouvelles. Et puis, il y a un collège plus institutionnel où on retrouve les acteurs classiques que sont les chambres consulaires, les organisations patronales, les organisations syndicales de salariés et le monde académique. Et donc tout ce monde-là, c'est 110 personnes, puisque c'est 110 personnes avec des suppléants, et c'est de réfléchir ensemble. Donc c'est un travail en soi et ça demande, je dirais, de la patience, ça demande de l'opiniâtreté pour les uns et pour les autres pour aboutir à produire des choses. Donc, vous l'avez dit, vous l'avez fait évoquer, il s'agit de faire émerger
des
idées.
La vie de ces gens-là.
La vie, avec un E, et la vie avec un S, de ces gens-là sur toute une série de sujets pour penser le territoire dans les années à venir. Et aussi que cette assemblée, que ce laboratoire prenne connaissance un peu de la complexité, parce qu'il y a quand même une certaine complexité dans les politiques publiques et dans la vie et l'animation d'un territoire qui bouge.
Et alors, les avis que vous leur soumettez, enfin justement, toutes ces propositions que vous allez leur soumettre, vous les tirez d'où?
Eh bien, c'est exactement le travail des habitants. C'est-à-dire que mon rôle avec ma collègue de co-animateur de ce conseil de développement, c'est d'être garant du cadre, du fait que les habitants, dans leur pluralité, encore une fois, les habitants en tant qu'habitants, les institutionnels, les entrepreneurs, réfléchissent, produisent des idées, leur regard, leur questionnement, les problématiques qu'ils mettent en avant. Et à partir de là, on travaille sur des sujets un petit peu plus précis, sur des questions autour du climat, de l'économie, de la santé. Et on produit des avis qui sont proposés aux élus, charge à eux après d'en tenir compte, ou non. Mais s'ils n'en tiennent pas compte, c'est mieux qu'ils disent aux habitants, aux membres du Conseil de développement, pourquoi ils n'en tiennent pas compte, parce qu'il y a un certain nombre de choses que les habitants n'ont pas forcément perçues dans la politique publique, parce qu'il n'y a pas forcément d'argent pour ça, parce que c'est peut-être déjà traité dans
donc,
la politique
publique. Donc, dans un premier temps, en fait, c'est les citoyens eux-mêmes qui proposent le changement.
Oui. En tout cas, ils font part des questions qu'ils se posent, des attentes qu'ils ont. Et quand le Conseil de développement a été remis en place par l'actuelle mandature municipale et donc au-delà communautaire, en octobre 21, il y a eu un semestre de travail où très librement, les membres du Conseil ont réfléchi à toutes les questions qui se posaient à eux. Et ça a donné lieu à un certain nombre de préconisations, de propositions. Et ensuite, on s'est mis à travailler de manière plus thématique. Et aujourd'hui, par exemple, on sait, parce qu'il nous l'a dit, que le maire de Montpellier et président de la métropole a été très sensible et attentif au fait qu'un des groupes de travail a mis en évidence le fait qu'il n'y avait pas de politique de la nuit sur Montpellier et sur la métropole, contrairement à d'autres métropoles. De chartes encadrant un peu un certain nombre de pratiques, à la fois pour bien vivre, mais aussi pour bien dormir, mais aussi pour accompagner les travailleurs de la nuit, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent la nuit, et quand on dort, on ne le sait pas forcément. Donc, Michael Delafosse a été attentif à cette question et nous demande de continuer à travailler avec les élus, avec les services, pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être une politique de la nuit demain sur Montpellier et sur son agglomération.
Donc là, on voit un sujet sur lequel, en fait, il y a un retour, enfin un aller-retour dans ce qui se dit. Maintenant, on a quand même au niveau national une peut-être mauvaise expérience de ces débats participatifs, ou en tout cas les médias sont porteurs, parce que quand on réfléchit un peu, on s'aperçoit quand même que c'est pas si négatif que ça, mais que souvent on n'écoute pas l'avis du citoyen.
Alors c'est toute la difficulté effectivement qu'il y a à la fois pour les élus qui déroulent des programmes, et c'est bien normal qu'ils le fassent, ils ont été élus, donc ils ont un mandat pour le faire. C'est toute la difficulté pour les élus, mais aussi pour les habitants qui aujourd'hui sont dans des modes d'action, des modes de réaction beaucoup plus rapides dans le temps. Les réseaux sociaux y contribuent en grande partie, ou leur engagement associatif les amène à avoir une action ponctuelle, précise mais rapide. C'est toute la difficulté à conjuguer des temps différents. Et la Convention citoyenne sur le climat, la Convention citoyenne sur la fin de vie. En Occitanie, la région avait proposé à réaliser une convention citoyenne autour du livre vert, des politiques vertes de la région. Si on n'explique pas dès le départ le cadre et les limites de l'exercice, c'est-à-dire vous allez faire des propositions, j'écouterai vos propositions, j'en retiendrai ou je n'en retiendrai pas, mais je vous le dirai. Alors, si on a ce cadre, ça peut fonctionner. Si, comme je dirais malheureusement, sur la Convention citoyenne pour le climat, le président de la République a eu cette phrase un peu malheureuse de dire « je reprendrai sans filtre des propositions qui ont été faites par des gens qui ont énormément travaillé pendant de nombreux week-ends », il y a une déception. Et quand il y a une déception, c'est sans doute pire que ce qu'on a escompté. Il y a un effet retour terrible.
Très bien. Mais je pense un peu que vous allez aussi devoir peut-être informer les médias, parce que le travail que vous menez, finalement, vous avez parlé beaucoup des temporalités, mais ces temporalités d'acquisition de savoir et d'information, finalement, souvent, les médias ne l'ont pas.
C'est le risque évident, c'est effectivement une dissociation qu'il faut avoir en tête, mais une opiniâtreté qu'il faut avoir aussi, à dire, bah, écoutez, on travaille, on produit, on dit des choses, les élus nous répondent, mais en même temps d'essayer de travailler petit à petit en direction du grand public, enfin des habitants, de tous les habitants, pour porter à connaissance un certain nombre de propositions et de réflexions. Et puis, bon, encore une fois, si à la fin 25, je dirais à la fin de ce mandat, le Conseil du développement est installé dans le paysage, on pourra dire qu'il a pris une place et qu'aujourd'hui, il est considéré comme un des organes qui réfléchit, qui donne des idées et qui accompagne les élus.
Alors, en 2022, vous avez déjà dressé un premier bilan. Vous avez rencontré beaucoup de monde. On ne va pas entrer dans les détails de ce bilan, dans la mesure où on donnera à la fin de l'émission les liens et les lieux où on peut les connaître. C'est rédigé, puisque quelque chose en est sorti. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous, maintenant que ce bilan est sorti, vous êtes... Vous êtes assez satisfait. Enfin, vous avez l'impression que, justement, il n'y a pas eu de trahison de la parole citoyenne.
Alors, il y a deux niveaux de réponse. D'abord, on ne peut être que satisfait que ce groupe de personnes, encore une fois des bénévoles, ait produit et travaillé et réfléchi et avancé un certain nombre d'idées. On peut être également plutôt satisfait du fait que les élus les ont écoutés. C'est à approfondir, c'est à maintenir.
Est-ce que des récits nouveaux voient le jour? Parce que si on écoutait Bruno Latour, par exemple, on savait tous ce qu'on ne voulait plus. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on veut?
Eh bien, c'est très exactement au moins deux des chantiers qu'on a ouverts ces derniers mois. À la fois, essayer de réfléchir à un projet de territoire à l'horizon 2050. C'est-à-dire, vous parlez de récits. Bon, voilà, quelques hypothèses. Qu'est-ce que ça pourrait être, Montpellier, Méditerranée, Métropole, à l'horizon 2050? Et j'en profite pour dire, qu'est-ce que ça peut être à l'échelle des 31 communes de la métropole, mais aussi à l'échelle du grand territoire, parce que Montpellier, la collectivité métropole est petite. 31 communes, c'est un espace relativement modeste. Le rayonnement de Montpellier, c'est avec Sète, c'est avec le Cœur des Roses, c'est avec le Pic Saint-Loup, c'est avec le Lunellois, c'est du côté de la Grande Motte et compagnie. C'est tout cet ensemble du territoire qu'il faut considérer. Donc, on est en train de travailler, là, on espère produire une première note à l'automne, une sorte d'histoire, de récit de ce que les habitants du Codève, les membres du Codève, pensent que pourrait être le territoire en 2050. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là, c'est une demande plutôt du président de la métropole, c'est d'essayer d'imaginer, au travers de ce qu'on appelle les filières économiques un peu d'excellence qui caractérisent le territoire, ben, quel développement, quel impact? Et nous, on y rajoute la dimension, quel impact en emploi, parce que c'est important, donc en formation, et donc comment on fait en sorte que le territoire soit riche d'emplois pour les habitants demain.
Alors évidemment, toute la dimension économique joue un rôle primordial. Mais là, on va s'attacher un peu, puisque nous n'avons qu'une terre, aux enjeux environnementaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le citoyen est un peu au courant de comprend la complexité de l'écologie? Est-ce qu'il commence à comprendre que finalement, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir?
La réponse, là encore, est nuancée, d'une part, parce que c'est un peu ce que nous disent les membres du Conseil de développement, et puis d'autre part, on voit aussi que les politiques publiques se déploient.
À un engagement, par exemple, de programme électoral.
Alors, on peut considérer. Bah, en tout cas, le maire et président, Michael Delafosse, a souhaité instaurer une politique de gratuité des transports. C'est à la fois. Ça a à la fois un impact de sang sur la santé, c'est censé en avoir un, en diminuant les polluants divers et variés, en promouvant les mobilités actives. En tout cas, il a déployé ce programme. Mais je voudrais revenir sur le fait que, indépendamment du programme municipal, les collectivités sont amenées à réfléchir sur des plans climat, air, énergie territoriale, une politique publique qui vise à l'horizon 2050 à la neutralité des émissions carbone. Et on voit bien, en travaillant sur ce plan avec les membres du CODEV, la complexité des choses. Ce sont des politiques publiques qui se déclinent sur la collectivité, sur les bâtiments, sur la gestion de l'énergie, sur la gestion des déchets. Et en même temps, ça invite chaque citoyen, chaque habitant à changer son mode de faire. Et devant nous, il y a toute la question du traitement des déchets qui...
Entre autres,
mais qui a un impact important à la fois sur la collectivité, mais aussi à la fois sur une forme d'économie circulaire et la nécessité de recycler davantage. Là, les habitants, les citoyens ont beaucoup à réfléchir et beaucoup à se sensibiliser et à sans doute changer leur mode de faire, encore une fois, pour traiter cette question.
Mais on ne peut pas demander seulement aux citoyens de changer son mode de faire, hein.
On est bien d'accord, mais les politiques publiques sont là pour ça. Encore une fois, quand une collectivité va déployer d'énormes moyens financiers pour essayer de rationaliser, le faire en sorte qu'on jette moins dans la poubelle grise, qu'on recycle davantage dans la poubelle jaune, qu'on essaie de travailler la question des biodéchets pour produire de l'économie, pour produire de l'énergie sur le territoire, c'est une politique publique qui se déploie, qui nécessite beaucoup de pédagogie. Comme toutes les politiques publiques, le citoyen doit en être conscient.
La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'urgence, que tout s'est accéléré et que vous avez à la fois à faire de la pédagogie et en même temps presque d'obtenir une solution tout de suite, quoi.
Alors, je dirais que ce sont...
Enfin, ça s'est accéléré, en tout cas.
Ouais, c'est indiscutable que ça s'est accéléré. Je pense que c'est indiscutable également que les habitants, les citoyens en général aient pris conscience qu'il y a cette accélération. Je pense que plus beaucoup de gens aujourd'hui nient la question du dérèglement climatique. Bon, on peut en tout cas souhaiter que ça soit un nombre extrêmement réduit de climato-sceptiques. Ça nous amène quand même à réfléchir sur notre façon de fonctionner. Et ça nous amène, pour les plus anciens d'entre nous, à nous dire que finalement, on a peut-être quand même un petit peu abusé, on s'est peut-être un peu servi de la bête. Et aujourd'hui, il va falloir sans doute changer les choses.
Très bien. Alors, les avis du CODEV donc, ont été pris en compte. Vous avez une feuille de route 2023 qui est immense. Enfin, je l'ai regardée. On a l'urbanisme, on a la culture, on a les impacts sociaux de la transformation écologique, on a la planification. Bon, on sait aussi, quand on travaille un peu sur l'adaptation, qu'on va avoir des questions sur le littoral énorme à résoudre et que ça ne va pas être simple. Donc, comment vous allez gérer, j'ai un peu envie de dire, ce millefeuille?
Alors, quand vous dites « vous », encore une fois...
Oui, c'est vous, nous.
C'est vous, nous, puisque, bon, le Conseil de développement n'a pas vocation, ce n'est pas l'exécutif municipal ni métropolitain, c'est ce think tank qui réfléchit à essayer de trouver des solutions. Sur la question du trait de côte, encore une fois, Montpellier Métropole, c'est très petit, le trait de côte. C'est Villeneuve-les-Maglones. Mais en fait, le trait
en
de côte,
fait,
c'est sept.
C'est l'ancienne mission Racine. Quoi. C'est
alors, pour ceux qui connaissent
la mission Racine. De la Grande Motte.
C'est le golfe d'Aigues-Mortes. Et là, quatre collectivités se sont réunies pour essayer de trouver des moyens de préserver le trait de côte, de limiter les effets des submersions et aussi peut-être de limiter les effets des écoulements, puisque bon, la question du trait de côte, ce n'est pas tant la mer qui vient, qui monte avec les vagues, que l'eau qui arrive quand il y a des vidourlades et que les fleuves débordent et inondent toute ou partie du territoire.
Alors, donc là, vous êtes... tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a plus de déni. Je peux vous assurer que là, sur cette question-là, il y a encore beaucoup de déni.
Mais mettons-nous un instant dans l'habitant de Villeneuve. Je prends ce Villeneuve parce que c'est Montpellier, mais dans l'habitant de Carnon ou de Palavas.
Bon, Marseillan.
Ou de Marseillan. Comment peut-il imaginer que demain, effectivement, il peut être pris par des vagues qui arrivent des étangs et pris par des vagues qui reviennent de la mer et que, effectivement, son rez-de-chaussée peut devenir quasiment un aquarium ou, bon, c'est pas facile à imaginer. Donc, il y a un énorme travail de pédagogie, de simulation à montrer. Et puis, il y a la responsabilité pour les élus d'essayer d'anticiper un peu tout ce qui peut se passer, y compris la question de réfugiés climatiques sur notre territoire.
Alors ça va être certainement une très, très grosse question.
C'est une question qui va concerner les habitants des communes et certaines communes. Alors, je n'ai pas l'information stricto sensu sur ce qui nous concerne, mais notre territoire à nous, mais certaines communes envisagent déjà des zones de repli, des zones de mise en sécurité des habitants en cas de très forte houle qui pourrait avoir des impacts sur l'habitat.
Vous pouvez nous dire lesquelles ?
Ben non, j'ai vu passer un schéma. Je ne suis pas sûr que ce soit un schéma de notre territoire, encore, en tout cas.
En tout cas, il y a des villes comme Frontignan qui sont obligées de faire face à des choses qui vont être difficiles. Il y a Marseillan, dont on parlait tout à l'heure. Il y a Sérignan. Mais alors, il y a surtout... Alors, vous avez dans votre conseil, une de vos co-présidentes qui est Pauline Chatin, qui est gérante de la vigne de Cocagne. Et la vigne a été... qui reste quand même une des richesses économiques de la région. Elle a été un des premiers indices du réchauffement climatique du fait de la salinisation. Et est-ce que vous pensez qu'on va réussir, justement? C'est peut-être un peu éloigné, ça, des problèmes, justement, du citoyen de 3M. Hein.
C'est éloigné, évidemment, du quotidien de chaque habitant. Mais on a, sur Montpellier et dans la région, des pôles de recherche agroalimentaire de premier ordre. Et on sait que c'est là que se réfléchit à la fois l'adaptation des cépages, l'adaptation de la culture de la vigne. Bon, on sait qu'il y a des solutions, mais...
Reste fort, quoi.
Forcément, ça reste fort. Quand on regarde une carte des surfaces vinicoles de la région, on ne peut que constater que la vigne est largement prédominante. Mais vous avez raison de pointer que la salinisation des sols peut entraîner à terme la destruction d'un certain nombre d'hectares de vignes.
Surtout quand ça va se lier au problème de l'eau douce, hein, et qu'on ne pourra plus, par exemple, exonder un certain nombre de vignes comme
voilà.
On avait l'habitude de le faire.
Et on a vu en Espagne ces derniers jours qu'un certain nombre de d'hectares de cépages ont été grillés sur place, brûlés par le soleil. On peut imaginer, quand on connaît, mais c'est un petit peu plus loin de chez nous, du côté de Banyuls aussi, ces vignes à flanc de coteau, on peut supposer qu'elles peuvent être très impactées par tout ça.
Alors, il y a un livret qui rend compte de l'activité de 2022 qui s'appelle Lumière citoyenne.
Oui,
c'est un très beau nom.
C'est ma collègue qui a trouvé ce terme-là. Les co-présidents Pauline Chatin et Christophe Carniel l'ont agréé.
C'est très beau. En tout cas, donc, est-ce qu'on peut le connaître? Est-ce qu'on peut s'y rendre, le consulter
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on essaie de mettre en place. C'est un assez gros travail et nos forces de travail sont relativement modestes autour de tout ça. Aussi, des réunions publiques. On a initié il y a quelques semaines... une réunion qu'on avait appelée Climat en 2050, 2. Montpellier, bienvenue en Andalousie, un titre un peu provocateur pour inciter les gens à venir, mais aussi pour indiquer que le climat allait radicalement changer. On prépare pour l'automne, autour, je crois, du 20 septembre, une deuxième réunion Climat en 2050 avec la problématique de l'eau. Et on espère avoir Éric Orsenna comme un des deux grands témoins. Donc on essaie d'avoir cette politique de communication grand public et la collectivité a mis en place pour les différents outils de concertation, de consultation, un site internet qui s'appelle participer.montpellier.fr sur lequel on retrouve entre autres un onglet conseil de développement, et sur cet onglet conseil de développement, on retrouve nos productions, des comptes rendus de réunion, nos notes, voire parfois quelques sons. J'invite les auditeurs à aller
sur ce site et télécharger un certain nombre de documents. Alors, vous avez aussi des ateliers. Est-ce qu'on peut encore rejoindre ces ateliers ou bien... est-ce que, compte tenu du temps qu'ils ont déjà fonctionné...
Alors, on réfléchit à la manière de pouvoir ouvrir ces ateliers quasiment en entrée-sortie permanente, mais ça se heurte à un certain nombre de règles, de cadrage, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, les travaux ont commencé depuis maintenant près de 2 ans, avec des gens qui se sont investis. Issus, encore une fois, des conseils de quartier donc, qui avaient été tirés au sort dans les conseils de quartier. Donc, on réfléchit à la manière dont on peut ouvrir et s'associer de nouvelles idées, de nouvelles expériences. Et je ne doute pas qu'au premier trimestre, au dernier semestre, pardon, dernier trimestre, pardon, 2023, on aura trouvé la manière de pouvoir intégrer les gens. En tout cas, on ne s'interdit surtout pas d'inviter telle ou telle personne qui nous semble intéressante et qui s'est manifestée pour venir participer à nos travaux.
En tout cas, on reparlera sans doute de votre rendez-vous de septembre. Voilà, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci Jean Maillet. Et je vous invite tous à suivre donc les rendez-vous que nous fixe le CODEV. Et puis, sachez que demain, on doit s'écrire avec vous.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.